Chapitre 8. Frédéric sortit de chez le marquis pour aller aux Batignolles chez Clara. Ce n'était pas pour son agrément que la vicomtesse était venue demeurer rue Legendre, mais par raison d'économie. Seulement, comme elle trouvait que les Batignolles étaient un quartier honteux, qu'on n'avoue pas quand on se respecte, elle s'était arrangée pour n'avoir pas trop à souffrir de cette humiliation. Pour cela, elle avait choisi une rue honteuse d'un bout, c'est-à-dire bon marché, et de l'autre chic, c'est-à-dire cher, et c'était ainsi qu'elle avait loué un petit appartement, c'était elle qui disait appartement, rue Legendre. La rue Legendre, cela peut s'avouer, car elle a ses hôtels du côté du parc Monceau, et quand elle était obligée de donner son adresse, elle n'ajoutait pas que c'était du côté de l'avenue de Clichy qu'elle demeurait. Ne va-t-il pas de soi qu'une vicomtesse de Mussidan ne peut habiter qu'un quartier aristocratique ? Mais ce qui n'était pas aristocratique, c'était son appartement, ou plutôt son logement. Trois pièces, au cinquième, mansardées, une cuisine, une petite salle à manger et une chambre à coucher. Et cependant, elle n'avait rien négligé pour qu'il parlât, aux yeux de ceux qui étaient introduits dans son intérieur, de la noblesse de ses locataires. C'était ainsi que, sur un rideau en toile d'emballage formant un sort devant l'unique fenêtre de la salle à manger, elle avait brodé elle-même en laine rouge une large et haute couronne de vicomte qui disait au nouveau venu qu'il n'était point chez quelqu'un du commun. Son désir avait été tout d'abord de broder ses armes sur les dossiers des chaises de sa salle à manger, comme il convient. Malheureusement, leurs ressources ne leur permettant que des chaises canées, elle avait dû renoncer à cette décoration dont elle aurait été si fière et se contenter de son rideau store qui, bien que sa fenêtre fût exposée au nord, restait toujours baissée pour que les armes des Mussidan se développassent dans toute leur splendeur. De la salle à manger, on passait dans la chambre où ses armes étaient répétées, brodées en reprise, sur un fond en gros tulle formant voile au fauteuil. Il n'y en avait qu'un, et sur le dessus des dredons. Il fallait n'avoir pas Dieu pour ne pas savoir qu'on était chez une vicomtesse ou ne rien connaître à la science héraldique. C'était dans cette chambre que, du matin au soir, elle était occupée à travailler à ses toilettes de ville, car, pour celle de son intérieur, elle n'en prenait nul souci, étant toujours tournée chez elle comme une saltimbanque qui s'habille d'oripeaux de théâtre et de rideaux de fenêtres. Pas même peignée, parce qu'elle avait pris dans son café-concert l'habitude de se faire coiffer par le coiffeur de l'établissement et qu'elle l'attendait toujours comme s'il devait venir, s'ondulant les cheveux le matin avec des épingles et ne les défaisant pas de la journée. En avait-elle le temps? Jamais elle ne sortait deux fois de suite avec la même robe, c'est-à-dire qu'elle ne mettait jamais deux fois une robe sans l'avoir dégarnie, regarnie, rallongée, raccourcie, sans avoir défait un pli, remis un nœud. C'était sa manière de la brosser. Quant à l'étoffe dont cette robe était faite, c'était toujours à peu près la même, hélas, une vraie occasion, dans les 10 sous le mètre, achetée à la place Clichy et envoyée à Madame la Vicomtesse de Mussidan, car pour rien au monde, elle ne s'en serait chargée, une femme de son rang ne portant pas des paquets dans la rue. Mais sur cette pauvre étoffe, elle appliquait des volants, des ruches, des biais en satin, en faille, en velours à 30 ou 40 francs le mètre que son mari lui rapportait de chez Faugerolles, où il les choisissait dans les rognures, parmi les petits morceaux qui n'étaient bons à rien pour le couturier, mais qu'elle savait utiliser. Avec une vie si occupée, si remplie, elle n'avait pas le temps de faire la cuisine à son mari. Comment toucher à de la faille mauve quand on vient d'éplucher de l'oignon ? Heureusement, au rez-de-chaussée de la maison, il y avait un gargotier et cela lui était très commode pour commander son dîner au dernier moment. Elle n'avait qu'à descendre, même sans être habillée, et entr'ouvrant la porte de l'escalier qui, de la cuisine, communiquait avec l'escalier, elle dressait son menu. « Deux potages, 2 portions. »« Oui, madame la vicomtesse. »« Avez-vous des côtelettes de porc frais à la sauce ?»« Toujours, madame la vicomtesse. » « Eh bien, 2 côtelettes de porc frais avec des cornichons, beaucoup de cornichons. »« Oui, madame la vicomtesse. » Ce qu'il y avait aussi de très commode chez le restaurateur, c'était qu'elle pouvait varier ses menus et de la côtelette de porc frais passer à la gibelotte de lapin et au foie sauté. Sébastien ne devait donc pas se plaindre lorsqu'il rentrait des dîners qu'elle lui offrait, et de fait, il ne pensait pas à se plaindre. Il avait bien autre chose à faire que de parler de la nourriture et de s'occuper du présent. « Cela va bien, réjouis-toi. Tu as quelque chose de positif ?»« Pas encore, mais mon impression est très bonne. » Et c'était sur cette impression qu'il s'emballait. « Enfin, tu vas pouvoir dire adieu à ce misérable Faugerolles. Enfin, je vais donc pouvoir me faire faire des robes chez lui. J'ai une idée. » Et elle partait sur cette idée. Lui aussi, il en avait des idées, si bien qu'ils arrivaient souvent à se quereller, chacun voulant donner la priorité à la sienne. « Avant la robe, il faut penser à l'ameublement, » disait le mari. « Je suis bien excusable, peut-être, de penser à mes toilettes, depuis le temps que je traîne mes guenilles. Je serai bien excusable aussi, peut-être, de penser à la cuisine, depuis que je mange les ratatouilles d'en bas. Si vous m'avez épousé pour faire de moi votre cuisinière, vous vous êtes trompé, mon cher. » « Ça se voit, » disait Sébastien en entassant piteusement sur le bord de son assiette le gras du porc frais. « Si vous aimez mieux le café anglais, c'est aussi mon goût. Vous pouvez m'y conduire. » Ce n'était pas un méchant garçon. « Quand nous serons riches, nous ne nous querellerons plus, » disait-il. Et il faisait la paix, mais il ne mangeait pas son gras. Quand Frédéric entra chez sa belle-sœur, il trouva celle-ci occupée à découdre la robe qu'elle avait mise pour déjeuner, car en revenant par les boulevards, elle avait vu à une montre un retroussi de jupe qu'elle voulait immédiatement exécuter. « Vous ? » dit-elle. « Ne soyez pas surprise, soyez satisfaite. »« Mademoiselle de Puylaurens est morte ? » s'écria-t-elle. « N'allez pas si vite. Depuis le temps que j'attends, « Eh bien, et nous ? Enfin, que se passe-t-il de si extraordinaire ? » demanda-t-elle. « Je viens de voir le marquis d'Arlanzon. » Et il raconta sa visite en expliquant les avantages qu'il en attendait. Il s'était imaginé qu'elle allait partager son enthousiasme, mais il n'en fut rien. « Savez-vous que vous avez rendu ma tâche bien difficile ? » dit-elle. « Et en quoi ? Vous avez monté la tête à votre Hidalgo, et je ne vais pas, moi, monter la tête à la petite sœur, de manière à les mettre tous deux à l'unisson. Il aurait mieux valu attendre. C'était cela qui avait été convenu, d'ailleurs. » Sur ce mot, Sébastien rentra. Mis au courant de ce qui s'était passé, il donna raison à son frère. « Est-ce que l'essentiel n'était pas d'avoir le marquis ? » dit-il. « L'avez-vous ? » demanda-t-elle. « Enfin, il est entamé. Maintenant, il n'y a qu'à agir auprès de Geneviève. Va nous commander à dîner. Nous discuterons, en mangeant, les moyens à employer. » « Trois potages, trois portions, une salade. » « Tout de suite, madame la vicomtesse, il y a un fricandeau au jus. Votre société s'en lèchera les doigts. »